double plaisir ce matin, puisque vous avez deux cultes maintenant. Et c'est nouveau, ça. En Angleterre, d'où je viens, presque toutes les églises évangéliques ont deux cultes, le matin et le soir. Dimanche prochain, quand nous sommes de retour en Écosse, nous irons le matin à 11h pour le culte du matin, et le soir, à 6h, il y a le culte du soir. Et nous avons une fois, en Belgique, essayé ça, à Ottigny, dans le temps, avant que je ne vienne ici, jusqu'au dimanche, un dimanche soir, après avoir essayé ça quelques fois, nous avons invité un prédicateur à venir pour le culte du soir, spécialement. Nous sommes arrivés, nous avons ouvert pour le culte, nous sommes, Dorothy et moi, nous sommes attendus, les fidèles qui ne sont pas venus, et le prédicateur n'est pas venu non plus. Alors, on s'est dit, peut-être que ce n'est pas le bon système en Belgique, ça. Alors, depuis lors, mais vous avez maintenant innové, c'est bien à vous. Et comme Steve a dit, le texte 1 Thessaloniciens 4:3 que je vais développer est tellement riche, je me suis dit, quand on m'a dit de prêcher 25 minutes, et je regarde l'horloge, c'est quand même peu pour un texte si riche. Alors pourquoi ne pas développer le thème plus profondément sur deux messages qui sont chacun complets en lui-même. Mais j'espère que, qui sait, pour l'un ou l'autre parmi vous, à la fin du premier message, ça vous donne l'appétit de rester exceptionnellement pour un deuxième culte où je vais aborder la deuxième partie du verset. J'ai aussi mis sur le baptistère là quelques-uns de mes livres. Celui-ci, le feu sacré, traite du feu sacré qu'animaient les prophètes dans l'Ancien Testament et de qui nous pouvons apprendre pour nous-mêmes. Et aussi celui-ci, je l'ai relu, enfin regardé à nouveau l'autre jour, « Crime contre la divinité, la gravité du péché et la gloire de son remède ». Ce n'est pas peut-être un thème qui est très alléchant, et pourtant quand je regarde la table des matières, ça traite aussi du péché en nous, en tant que chrétien, comment réagir, la corruption de l'être humain, la sainte colère de Dieu, l'enfer, mais également l'expiation de nos péchés par Jésus, et même la glorification, c'est très complet sur le problème du péché, comment Dieu règle ça en long et en large. Les deux coûtent 7 €, il y a d'autres ouvrages sur cela, y compris un que vous avez dans votre étagère déjà, les grands thèmes de la Bible. Mais si ça vous intéresse, je serai là après le culte. Je dois aussi dire, ma femme m'a ordonné de vous dire en tant qu'Église ceci, notre reconnaissance pour le soutien que vous avez montré à notre fille Joy, qui était membre ici, jusqu'à ce qu'elle soit partie en Écosse, où nous sommes aussi, à côté d'elle. Elle va très bien. Nous remercions Dieu de son aide. Dans son cas, dans sa vie, elle travaille comme bénévole un jour par semaine dans la librairie évangélique à Inverness. Et elle a d'autres activités dans la semaine. Elle est très fidèle au culte, les deux cultes du dimanche, et l'étude biblique dans la semaine. Et elle travaille également dans un ministère auprès des élèves de l'école, un témoignage en douceur, où on accueille les enfants dans l'église à midi. Donc merci pour votre soutien, vos prières, votre amour pour elle dans le temps, et nous sommes très touchés par cela. Bon, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'inconduite, dans ma traduction du second. Traduit différemment dans second... impudicité, un mot un peu plus vieux, immoralité sexuelle, traduit dans second 21, fornication, traduit dans la vieille version anglaise, la porneia, c'est le mot en grec, et nous allons reparler de cela surtout dans le deuxième culte. Je vais surtout d'abord regarder les deux premières parties de ce texte. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et dans le deuxième culte, nous regarderons plus la question de s'abstenir de l'impudicité ou l'immoralité sexuelle. Avant donc de parler de la question de la vie sexuelle des chrétiens, l'apôtre Paul pose un fondement. Et puis, il impose un comportement général. Il pose un fondement, ceci, c'est la volonté de Dieu, littéralement. C'est traduit ici, ce que Dieu veut, mais dans le texte grec, c'est plus fort que ça. Ceci est la volonté de Dieu. Quand nous venons au culte, le dimanche matin, c'est pour nous instruire sur ce que Dieu veut pour nous, comment Dieu veut que nous vivions notre vie. L'apprentissage donc de la volonté de Dieu est très important et nous l'apprenons par l'Écriture. L'Écriture révèle ce que Dieu veut pour l'être humain. La volonté de Dieu s'impose à toute créature, aussi bien qu'aux chrétiens. Il faut peut-être souligner ça parce que dans le monde dans lequel nous vivons, beaucoup de gens vivent comme si Dieu n'a rien à dire, à leur dire en tout cas, et ils doivent inventer leur propre moralité. Nous allons reparler de cela aussi au deuxième culte. Mais ici, quand Paul dit « voici la volonté de Dieu », il ne traite pas seulement « voici la volonté de Dieu pour vous chrétiens », il dira ça, surtout votre sanctification. Mais néanmoins, il réfléchit dans le contexte du fait que Dieu est le créateur de tout être humain. Il est le créateur de l'être humain qui est un être moral. Et Dieu a une volonté morale pour tout être humain, qu'il soit bouddhiste, athée ou n'importe quoi, aussi bien que chrétien. D'ailleurs, en Apocalypse 4, verset 11, ceux qui sont là dans la présence du Seigneur en train de l'adorer, l'adorent parce que tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tout a été créé par Dieu. Donc tout est géré par la souveraine de Dieu et par la volonté de Dieu. Dieu a une volonté pour toute chose. Dieu a donc le droit sur sa création d'exiger de ses créatures de vivre comme il entend, comme il veut, comme sa sagesse infinie et son amour et sa sainteté ensemble indiquent pour la conduite de l'être humain. Ceci est valable pour le non-chrétien, comme je dis, comme pour le chrétien. L'être humain, en général, vit, qu'il le sache ou non, dans le cadre d'être créé par Dieu et pour Dieu. Colossiens 1,16 dit « Tout a été créé par Dieu et pour Dieu ». L'être humain fait partie de ça. L'être humain a été créé par Dieu et pour Dieu. Et il vit. L'être humain, le non-chrétien, le bouddhiste, comme je dis, le musulman, l'hindou, l'agnostique, dans le cadre du fait que Dieu est son créateur, et un jour, il va devoir rendre compte à ce Dieu créateur pour la vie qu'il a vécue, s'il a été obéissant ou non à la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est un sujet très important. C'est le sujet fondamental derrière l'existence. C'est le sujet d'ailleurs qui donne la réponse à la question qui tenaille les êtres humains aujourd'hui. Quel est le sens de notre existence? Pourquoi suis-je ici? La volonté de Dieu. Si on ignore Dieu, ce n'est pas surprenant qu'on ne sait pas pourquoi on est là. La volonté de Dieu s'impose donc à toute créature, mais la volonté de Dieu est aussi acceptée par tout converti. En se convertissant, que vous le sachiez au moment de votre conversion ou non, vous vous êtes engagé à désormais faire la volonté de Dieu. C'est le revers de la repentance. La repentance, c'est dire non au péché. En vue de quoi ? Eh bien, de faire le bien. Et le bien, c'est défini par la volonté de Dieu. Donc, en vous convertissant, vous vous êtes engagé, vous avez pris la décision de principe de vivre désormais pour faire ce que votre Sauveur veut. Ce que Dieu veut est donc important pour le chrétien. Et vous devez, si vous ne le faites pas habituellement, réfléchir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette circonstance, dans cette situation, dans cette relation? Parce que Dieu a une volonté pour ces choses. Dans la lettre de Pierre, Pierre dit ceci, il parle de celui qui souffre dans la chair, qui a fini avec le péché. Bon, le chrétien a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Et comme le non-chrétien devrait s'assagir pour se dire « j'existe pour la volonté de Dieu, je vis dans ce cadre », de même le chrétien doit renforcer son engagement de conversion de façon régulière en disant « Seigneur, je veux faire ta volonté, apprends-moi à faire ta volonté, aide-moi à faire ta volonté, que la volonté de Dieu règne et dirige et gouverne nos décisions. » C'est pour ça que Paul dit en Romains 12, versets 1 et 2, que nous devons nous consacrer notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, acceptable à Dieu. C'est un culte raisonnable. Ne nous conformons pas au monde présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc il faut apprendre cette volonté de Dieu par le renouvellement de l'intelligence. Et on trouvera qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Voilà, ce que Dieu veut est donc d'une importance capitale. Et ce n'est pas ce que Paul lui-même enseigne dans ce chapitre sur la sexualité, par exemple, qui est l'essence de son exhortation. L'essence de son exhortation n'est pas une pensée humaine. La moralité chrétienne n'est pas une option humaine parmi d'autres, une philosophie religieuse parmi d'autres. Elle est la révélation de la vérité et de la volonté de Dieu. Paul a déjà dit ça au chapitre 2, verset 13, quand il dit « Je rends grâce que quand vous avez reçu la parole que nous vous avons prêchée, vous, à Thessalonique, vous l'avez reçue non pas comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu. » Et Paul dira aussi au chapitre 4, verset 8, « Celui qui rejette ce précepte ne rejette pas un homme, mais Dieu. » Autrement dit, ces préceptes sur la sexualité que Paul développe dans ses versets et ailleurs, aussi dans le Nouveau Testament, ce n'est pas simplement, ce n'est pas même du tout, la pensée d'un être humain qui s'appelle Saul de Tarse, qui a des notions vieux jeu sur la sexualité. Non. L'apôtre inspiré apporte la pensée de Dieu, la volonté de Dieu sur le thème de la sexualité, dans son enseignement, ici et ailleurs, dans ses lettres. Alors, Paul pose un fondement, la volonté de Dieu. Deuxièmement, il impose un comportement quand il dit, voici ce que Dieu veut, voici la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. La sanctification est un mot religieux, complexe, on entend de temps en temps, dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Et pourtant, c'est un concept qu'on ne manie pas facilement. Qu'est-ce que ça veut dire, la sanctification ? L'essence de la sanctification, quand on sanctifie quelque chose, on met à part cette chose pour Dieu, et dans un objectif de sainteté. Nous sommes exhortés dans les 10 commandements à mettre à part le jour du sabbat, à sanctifier le sabbat, à mettre ce jour à part pour Dieu et pour un objectif de sainteté. C'est pour ça qu'en Angleterre, traditionnellement, ça remonte quelques siècles, il y a deux cultes, le matin et le soir, parce que toute la journée est sanctifiée. Parfois, j'ai eu l'impression dans ma jeunesse, en venant en Belgique, que les catholiques faisaient la messe à la première heure, et puis après ça, toute la journée, on peut faire aller à la mer et faire ce qu'on veut, ce qu'on a fait, parce qu'on a fait son devoir religieux, et voilà. Mais toute la journée a été mise à part dans les 10 commandements pour le repos, ne pas travailler, et ce jour est à sanctifier, à garder pour Dieu, prendre le temps de lire des livres chrétiens, prendre le temps de la communion fraternelle, de venir au culte, bien sûr, aussi. Alors, quant à notre sanctification, le Nouveau Testament emploie ce mot « sanctifier » ou « sanctification » dans deux contextes, dans deux façons. Premièrement, le chrétien a été sanctifié, et deuxièmement, le chrétien doit se sanctifier. Ça a l'air d'être une contradiction, mais c'est complémentaire. Nous allons regarder ces deux aspects de la sanctification. Premièrement, le chrétien a été sanctifié. La plupart des emplois de ce verbe sanctifier dans le Nouveau Testament traitent de cette sanctification, le fait que le chrétien, par sa conversion, a été mis à part pour appartenir à Dieu et pour une vie de sainteté. Mis à part, c'est ça l'essentiel de la pensée ici. Comme par exemple en 1 Corinthiens chapitre 1, Paul s'adresse aux chrétiens à Corinthe, qui n'étaient pourtant pas les meilleurs des chrétiens, parce qu'ils avaient toutes sortes de problèmes dans leur église. Mais il dit ceci, à l'église de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, Paul adresse l'église de Dieu qui est à Corinthe à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés saints ou appelés à être saints. Paul écrit donc à ces chrétiens dans l'Église parce qu'ils avaient été convertis. Ils n'étaient pas au sommet de la spiritualité et de la sainteté. Et pourtant, Paul dit, vous avez été sanctifiés. J'écris à ceux qui ont été sanctifiés, appelés saints. Le fait que le chrétien, par sa conversion, a été mis à part par Dieu pour lui appartenir, signifie qu'il est un des saint, sa vie a été transformée par le don du Saint-Esprit. En 2 Thessaloniciens, chapitre 2 aussi, verset 13, l'apôtre Paul parle de la conversion de ces Thessaloniciens. « Nous remercions Dieu pour votre salut, dit-il. Dieu vous a, dès le commencement, choisi pour le salut par la sanctification de l'Esprit et la foi en la vérité. » Vous avez été sauvés, comment ? Par la sanctification. Ce n'est pas, vous avez été sauvés pour une vie de sanctification, quoique ça c'est vrai aussi, mais il parle de la sanctification comme ayant eu lieu au début, au moment où ils ont eu foi dans la vérité. Donc ces emplois, entre autres aussi en Pierre, chapitre 1, verset 3. Attendez, où est-ce que je suis dans mes notes? 1 Pierre 1, 2 également utilise le mot sanctification dans cette même expression. Ce qui est encore plus saisissant, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, un passage qui est extrêmement à propos de nos jours et très important pour le chrétien de bien connaître. Paul dit ceci, chapitre 6, verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voilà toute une catégorie de pécheurs qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et puis, après avoir donné cette liste, de ceux qui sont exclus du royaume de Dieu, Paul continue en disant à ses Corinthiens, « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Ces chrétiens à Corinthe avaient été lavés, justifiés, oui, convertis, mais aussi sanctifiés dans le temps passé. Et pourtant, ils doivent se sanctifier encore. La sanctification, donc, dans ce premier aspect, a lieu au moment de la conversion par le don du Saint-Esprit qui est donné par la nouvelle naissance de l'Esprit qui est opérée, par le baptême de l'Esprit par lequel le nouveau croyant est incorporé dans l'Église de Jésus-Christ. Dans ce sens, la sanctification, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu dans votre expérience si vous êtes converti. C'est Dieu qui l'a fait, vous n'y étiez pour rien, Dieu vous a donné son Esprit, il vous a mis à part, désormais pour lui, vous faites partie de sa famille, vous faites partie de son peuple. La conséquence de cela, c'est que Dieu attend de vous une vie de plus en plus sainte. Et ça, c'est le deuxième sens de la sanctification. Le chrétien doit se sanctifier. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, dit-il, que vous absteniez de l'inconduite, de l'immoralité. Et Dieu, au verset 7 du même chapitre, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu vous a appelés à la sanctification. Ça, c'est la vie sainte qui en découle de cette mise à part opérée au moment de la conversion. Et alors, si nous sommes peut-être pas conscients même de notre sanctification initiale quand nous sommes mis à part. Nous avons pris une décision de conversion, bien sûr. Mais c'est Dieu qui opère cette sanctification première. Il nous met à part pour lui. Quant à notre croissance dans la sanctification, croissance en sainteté, nous sommes bel et bien invités à collaborer avec Dieu le Saint-Esprit qui est en nous. Et il y a maintes référence dans le Nouveau Testament qui nous exhorte à grandir en sainteté, à progresser. La sanctification initiale est définitive. La sanctification de notre conduite est progressive. Et nous sommes appelés donc à y œuvrer continuellement. C'est ça au verset 7 et 8. De cette section aussi. Peut-être aussi 2 Corinthiens chapitre 7, Paul qui avait écrit dans 1 Corinthiens à ses Corinthiens qu'ils avaient été sanctifiés, au chapitre 7 de 2 Corinthiens, il dit ceci, « Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. » C'est ça la sanctification progressive, développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Et ça, mes chers amis, c'est la charge qui nous incombe en tant que chrétiens, de jour en jour. C'est le combat que nous menons progressivement pour gagner de plus en plus de victoires sur cette nature pécheresse, ce péché qui reste en nous, même après de longues années de vie chrétienne. Mais Dieu nous appelle à une victoire sur ces tendances, à mûrir dans la sainteté, à connaître davantage l'amour et la pureté de Dieu. Tout cela, c'est donc une invitation à mourir au péché, à mettre à mort les penchants de la chair, à chercher par la grâce de Dieu à gagner des victoires sur les tentations, à suivre les exhortations que nous trouvons dans la Bible, à obéir aux commandements de Dieu, à être façonné par la parole de Dieu, à cultiver le fruit de l'Esprit. Tout cela, c'est la sanctification. C'est pour ça que nous lisons nos Bibles tous les jours. Seigneur, montre-moi ce que tu veux, comment vivre une vie de sainteté. Chapitre 3 de 1 Thessaloniciens, juste avant ce passage, verset 13, « Que Dieu affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté. » C'est ça vers laquelle nous venons. Une vie sans reproche. Et jusqu'à finalement, à la fin de 1 Thessaloniciens, le dernier deux versets, trois versets presque, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Voilà, la fin de la sanctification, c'est la glorification. Et Paul prie ici, que votre corps, âme et esprit soient conservés sans reproche quand Jésus revient. Ça, c'est le sommet de la sainteté dans l'expérience du chrétien, quand nous verrons le Seigneur face à face. Voilà donc, Paul pose un fondement, la nécessité pour tout être humain, et d'autant plus pour le chrétien, de faire la volonté de Dieu. Et il exhorte, il impose un comportement de sainteté. La fin de ce verset dit « abstenir de l'inconduite ». Il donc va parler, dans les versets aussi, juste après cela, de la vie sexuelle du chrétien, de s'abstenir de ce que le mot grec, la porneia, ce qui peut être traduit, pour ainsi dire, toute activité sexuelle hors du mariage hétérosexuel. C'est de ça qu'il faut s'abstenir. Nous allons développer ça dans le deuxième culte, mais en bref, pour ceux qui ne peuvent pas rester, retenez ces deux principes-ci. Avant le mariage, chasteté. Dans le mariage, fidélité. Simple. Nous allons prendre le temps d'approfondir ça dans le deuxième culte. Avant le mariage, chasteté. Dans le mariage, fidélité. Amen.